BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh bien, les grandes ambitions de Deezer, le champion français du streaming musical créé en 2007, va entrer en bourse sans doute à la fin du mois de juillet. Objectif accéléré à l'international et titiller un peu le champion suédois Spotify. Et puis comme chaque semaine, eh bien, nous parlerons également beaucoup de Made in France dans cette émission, notamment avec Pierre Elmalek en plateau avec nous. C'est lui qui a fondé au début des années 80 la célèbre enseigne Maison de la Literie. Aujourd'hui, le groupe, ce sont 4 marques fortes, plus de 400 magasins en France et une production de matelas et de sommiers réalisée à 80% à la fois en Saône-et-Loire et en Charente. Enfin, lui réalise 100% de sa production en France, précisément en Lozère. C'est Julien Tufféry, le jeune patron de la fabrique de jeans Atelier Tufféry, était cette semaine l'un des invités de notre émission spéciale « Faire réussir la France ». Mais tout d'abord, eh bien, ce début d'année en fanfare pour la French Tech qui, en un trimestre, a déjà levé 5 milliards d'euros. C'est déjà presque la moitié de l'ensemble des levées de 2021. Un dynamisme porté par quelques gros tours de table, comme ceux, entre autres, réalisés par Backmarket, par Conto ou encore Doctolib. Au final, en ce début 2022, la tech française distance l'Allemagne et se rapproche du Royaume-Uni. On voit le détail des chiffres avec Raphaël Couder et juste après, l'analyse de Patricia Braun. C'est la présidente d'Inextinso Innovation. Croissance.
La French Tech n'a jamais autant attiré les investisseurs. Sur les 3 premiers mois de l'année, les startups françaises ont levé plus de 5 milliards d'euros, une hausse de près de 260% par rapport à la même période l'an dernier et un montant supérieur aux fonds récoltés sur l'ensemble de l'année 2020. Dans le détail, le nombre d'opérations progresse peu, c'est surtout le ticket moyen qui explose, plus de 21 millions d'euros désormais. Des chiffres records portés par l'afflux de liquidités sur les marchés encore en ce début d'année et par une poignée de méga levée de fonds ces derniers mois. Backmarket, Conto et Doctolib ont par exemple récolté près d'1,5 milliard d'euros à E3. Cette euphorie permet à la France de passer devant l'Allemagne et de se hisser à la deuxième place du podium européen, plus très loin derrière le Royaume-Uni, qui conserve néanmoins sa position de leader historique dans le domaine, avec 6,5 milliards d'euros levés sur le premier trimestre.
Si on regarde le top 10 européen des levées de fonds en premier trimestre, il y a 5 startups françaises, donc on voit le dynamisme. On imagine pour la suite sur quoi on va miser, notamment pour le reste de 2022 et dans quel secteur entre autres.
Alors bon, le secteur, les 3 secteurs, on voit que c'est tout ce qui est fintech, medtech et puis logiciel, software. Donc, ouais.
Aussi on voit là, le développement, on a derrière vous ce rare développement des métaverses et des bitcoins, des cryptos et des tokens.
Alors, on parlait à l'instant de certaines de nos licornes françaises. Eh bien, il en est une qui affiche de grandes ambitions, c'est Deezer. Deezer, vous le savez, c'est cette plateforme de streaming musical lancée en France en 2007, mais qui a du mal à passer à la vitesse supérieure, notamment en sortant davantage du marché français, où elle réalise encore les 2/3 de son chiffre d'affaires. Cette semaine, eh bien, pour accélérer son développement, Deezer a annoncé retenter une introduction en bourse. Ce sera à Paris, et sans doute à la fin du mois de juillet. On écoute les explications de Nathan Cocampo, et juste après, l'analyse de notre journaliste Simon Tenenbaum.
7 ans après sa tentative avortée au dernier moment, au motif de conditions de marché défavorables, Deezer compte bien réussir son entrée à la Bourse de Paris, prévue fin juillet, et ainsi devenir, après Believe en 2021, la deuxième licorne française de la musique à entrer à Euronext. À travers le SPAC I2PO lancé par la famille Pinault, Mathieu Pigas et une ancienne dirigeante de Warner Media, la plateforme s'appuie sur des acteurs de taille pour retrouver de la croissance dans un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, Deezer, c'est 16 millions d'utilisateurs, dont près de 10 millions d'abonnés. Une dynamique existe, 800 000 nouveaux clients sont arrivés sur la plateforme depuis fin 2019, mais sur ce secteur, la concurrence est rude. Le géant Spotify a lui dépassé les 400 millions d'utilisateurs. Sa capitalisation est 25 fois plus élevée. Deezer mise donc sur son entrée en bourse et ses différents partenariats, comme Orange en France ou l'opérateur de téléphonie TIM au Brésil, pour se développer. Un lancement en Allemagne est aussi prévu prochainement avec RTL. Disponible dans 180 pays, Deezer vise le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 et ainsi atteindre la rentabilité.
Deezer, c'est un précurseur, un pionnier du streaming. Hein. Ça a été lancé en 2007. C'est un vrai succès, une des premières licornes françaises. Mais effectivement, la plateforme n'a pas encore, on va dire, révélé tout son potentiel. Elle n'a pas autant profité que ses grands rivaux mondiaux de la croissance quand même très forte du marché du streaming. Aujourd'hui, pour vous donner un peu les chiffres, Deezer revendique près de 10 millions d'abonnés. Spotify, c'est 180 millions d'abonnés. Sa part de marché mondial sur le marché du streaming à Deezer, c'est 2%. Spotify, c'est plus de 30%. Apple Music, 15%. Amazon, 13%. Deezer, par contre, est très fort sur le marché français. C'est le leader chez nous. Mais la France représente 70% de son chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup à faire pour s'internationaliser. En termes de croissance, on voit avec ce marché, cette physionomie très locale, que Deezer a du mal à profiter de l'emballement autour du streaming. Ouais. L'an dernier, la plateforme a réalisé 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, croissance 5,5%, là où le marché global de la musique a cru de 18%.
Et là, en bourse, ça va vraiment permettre d'accélérer pour le coup, Simon.
Alors, la fusion avec le SPAC de la famille Pinault va apporter pas mal d'argent, de l'argent frais pour investir, jusqu'à 425 millions d'euros entre l'introduction en bourse et puis les actionnaires historiques qui vont remettre au pot. Les objectifs financiers sont ambitieux, doubler le chiffre d'affaires d'ici à 2025, dans 3 ans, à 1 milliard d'euros, et puis enfin atteindre la rentabilité.
Alors justement, cette rentabilité de 10 heures, quand interviendra-t-elle? Christophe Jacubizine a posé la question à Stéphane Rougeau, c'est le directeur général adjoint de 10 heures. Et juste après, on écoutera la réaction d'Iris Knobloch, qui co-dirige le SPAC, qui va précisément accompagner l'entrée en bourse de 10 heures. On les écoute donc tous les deux.
On s'est fixé comme objectif d'être profitable en 2025. En fait, on a un modèle de développement qui est assez particulier, qui est très différent de celui de Spotify, et qui est basé sur l'entrée sur des grands marchés. On va se concentrer que sur des grands marchés et de rentrer sur ces grands marchés avec des partenaires.
Par exemple, des opérateurs de télécom?
Alors, au départ, c'était surtout des opérateurs de télécom. On l'a fait avec Orange en France à partir de 2012. Et puis ensuite, on l'a répliqué en France. On a eu SFR. On a également des entreprises de retail comme Fnac Darty. On l'a fait également au Brésil. En 2016, on s'est associé au Brésil avec TIM, qui est l'opérateur de télécom local.
Quelle part de marché vous avez au Brésil aujourd'hui?
Alors, à cette époque-là, en 2016, on avait 5%. Ouais. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on a maintenant 17% et on est numéro 2. Donc, en fait, ce modèle de développement où on rentre à travers des partenaires, il est extrêmement positif, à la fois pour gagner rapidement des parts de marché, parce qu'en fait, on accède tout de suite aux bases d'abonnés et aux millions d'abonnés de notre partenaire. En faisant ça, on croit rapidement. Surtout, on renforce très vite la notoriété de notre marque, sans avoir à investir des dizaines de millions en marketing. Et une fois qu'on a établi ces positions de marché et qu'on a renforcé notre marque localement, on est capable de se développer en B2C et d'aller en direct, en même temps qu'on le fait avec notre partenaire. Et en faisant ça, ça nous permet d'être profitable beaucoup plus rapidement. Et effectivement, en 2025, on vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, avec un plan de croissance qui est très clair. Et avec un milliard d'euros, on sera en mesure d'être profitable et on va même générer du cash dès l'année 2024.
Alors, Iris Knobloch, vous êtes une star de l'entertainment, vous avez dirigé Warner Media, vous allez présider le Festival de Cannes.
Très heureuse.
Vous allez donc permettre à 10 heures d'entrer en bourse et de devenir en plus une licorne, non? On va arriver au milliard, non, de valorisation?
Absolument, une licorne, une belle licorne française de la tech, du écosystème tech français. Et nous, on est convaincus que c'est un mariage parfait. C'est une marque de challenger qui a tout le potentiel de gagner. Et Deezer a tout pour être le concurrent qui va challenger Spotify dans l'avenir.
Voilà donc pour les grandes ambitions du champion français du streaming Deezer. Et on va à présent complètement changer d'univers en parlant de jeans made in France. Il y a 6 mois, lors du salon du fabriqué en France, je recevais Julien Tufféry, jeune dirigeant d'une usine de production de jeans, donc en Lozère. Avec son épouse, il a repris en 2015 l'entreprise familiale, installée dans les Cévennes depuis 130 ans. Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. C'est pour cela, précisément, que nous avons reçu Julien Tufféry dans l'émission Faire réussir la France, mardi dernier. On va l'écouter dans un instant. Mais tout d'abord, voyez ce reportage signé Claire Sergent et Olivier Mélan au cœur de l'atelier Tufféry. C'est en Florac, c'est en Lozère.
Il y a 7 ans, quand Julien Tufféry reprend l'atelier familial de confection de jeans, il ne reste que son père et ses deux oncles dans l'affaire. Ils ne produisent plus que 300 pantalons par an pour les habituer. Avec sa femme, tous deux ingénieurs, lui chez Veolia, elle dans un groupe alimentaire, il décide de ne pas laisser disparaître le savoir-faire de l'entreprise.
Donc on s'est dit, on a 5 ans pour le transmettre, l'amener sur des jeunes générations dans un cadre de management hyper moderne. Ça a commencé par des toutes jeunes personnes comme Clémentine qui sont là, qui sont chefs d'atelier et qui ont capter le savoir-faire de mon père et de mes oncles. Puis après, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Audrey, il y a eu Mireille, il y a eu Nadège. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ce pari-là, on l'a réussi. La famille Tufféry peut disparaître. Le savoir-faire de la maison Tufféry est pérennisé et gardé par toutes ces jeunes générations ici.
Une formation en interne complètement autofinancée, Julien Tufféry déplore le manque d'aide sur ce point. En parallèle, il mise sur les filières locales, pour le tissage, pour l'approvisionnement en lin, en chanvre. Il mise aussi sur le digital, les ventes en ligne et la communication sur les réseaux sociaux. Tufféry n'a qu'une seule boutique physique à Florac.
Et ce qui est formidable avec le web et le digital, c'est que ça a trois vertus pour nous. Petit un, c'est que ça annule complètement l'isolement géographique. Vous avez où on est au fin fond des Cévennes, cadre exceptionnel, mais on n'est pas en périphérie de Paris. Petit 2, le web a une vertu géniale, c'est qu'on est visible par tous, tout le temps. Et petit 3, le web a une vertu géniale, c'est que c'est un formidable outil de vente directe. Aujourd'hui, on envoie des jeans partout sur la planète. L'Australien qui nous achète un jean, qui dépense 120€ chez nous, ces 120€ qui reviennent directement ici.
Aujourd'hui, l'atelier Tufféry emploie 26 salariés. Le salaire minimum est de 1 400€ net. L'entreprise réalise un peu plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et vend 40 000 jeans, 100% made in France par an.
Nous concernant, j'aime à dire, je me plais à dire que, enfin oui, on a une entreprise qui a 130 ans et pourtant on est terriblement moderne. Oui, on a une entreprise artisanale et pourtant on est à la pointe de l'innovation.
On va voir les images.
Et c'est surtout qu'on est, on est au fin fond de la ruralité française, au fin fond de la Lozère. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait partie, on a certaines clés pour répondre aux défis écologiques et économiques d'avenir. Et c'est ce que je dis aux jeunes, souvent quand je suis en école de commerce à table ronde, je leur dis, alors forcément, tous les jeunes à l'école de commerce veulent devenir entrepreneurs riches et célèbres très vite. Et je leur dis, mais juste regardez dans votre ruralité, regardez dans vos campagnes, il y a des petites pépites d'artisanat, géniales, des petites entreprises, 3, 4, 5, 10, 20 salariés, qui demandent que à être dépoussiérés. Et voilà. Et on est l'exemple de ça. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on, notre réussite, notre humble petite réussite, c'est le mariage du métier de mon arrière-grand-père avec juste les moyens de la Startup Nation, quoi. Alors, c'est ça qui est juste génial. Encouragez ça.
Voilà, donc, et on le dit chaque week-end dans cette émission, la France a tout pour réussir et pas seulement à Paris. D'ailleurs, et avant de recevoir notre invité Pierre Elmalek, le patron de Maison de la Literie, eh bien, on va poursuivre notre tour de France des industries à la fois performantes et résilientes. Après l'Occitanie, voici les Hauts-de-France, direction le département du Nord, à la découverte de l'entreprise Bonne Nuit. Comme son nom l'indique, on est dans le domaine des matelas et des sommiers. Voyez ce reportage signé Claire Sergent et Olivier Mélan et commenté par Sofiane Aklouf.
Nous sommes à Bondu, près de Lille, chez le fabricant de matelas et de sommiers Bonne Nuit. Cédric Maton, un ancien de Decathlon et de Danone, reprend une usine de literie fin 2019 en s'associant avec son ami d'enfance. Mais un an plus tard, le confinement change la donne. Impossible de travailler avec les distributeurs.
On s'est dit, on est bloqué, on ne peut plus vendre nos matelas. Pourtant, on a une pépite sous les bras, mais on ne peut pas la proposer en distribution. Du coup, on a fait un crowdfunding. On a décidé de raconter notre histoire avec Félix. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. On reprend une boîte qui est en difficulté. Quelques semaines après, on est bloqué par le confinement. Et du coup, on a décidé d'expliquer notre histoire. Et ça a plu.
Résultat, 25 000 euros de précommande récoltée. Les deux entrepreneurs réorientent l'activité vers des produits plus écologiques. C'est la naissance de la marque Bonne Nuit.
Et le but, c'était de trouver un nouveau canal de distribution avec des matériaux, des matelas, une logique qui nous correspondait plus, et c'est-à-dire beaucoup plus responsable. Donc aujourd'hui, on travaille avec des fournisseurs qui sont pour la plupart locaux, à l'image de notre lin qui vient de chez Le Maître de Mester, qui est à moins de 3 km de chez nous, ou les sommiers, les caisses de sommiers qui viennent du Valenciennois. Et une fois qu'on a ce petit maillon de fournisseurs, on a voulu vendre des matelas en direct.
Du latex naturel, du coton bio et de la laine produite en France, autant de matériaux qui ont remplacé le pétrole, présent à 95% dans les anciens matelas. Des matières premières qui coûtent de plus en plus cher, pas d'autre choix que d'augmenter les prix. Le duo se prépare aussi à des difficultés d'approvisionnement.
Nous, on travaille qu'à la commande. Donc il a fallu qu'on ait un stock de matières premières assez important. Sachant qu'on vend aussi sur Internet, on ne peut pas se permettre d'avoir de rupture. Donc on a la chance d'être à côté de nos fournisseurs. Donc si on voit qu'on n'a pas la marchandise vite, hop, on prend notre camion et on va directement la chercher chez eux.
Bonne Nuit veut désormais se diversifier. L'entreprise va lancer en sous-traitance une ligne de linge de maison et vise désormais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette année.
Voilà donc, Bonne Nuit dans le département du Nord. Bonjour Pierre Elmalek.
Bonjour.
Est-ce que vous connaissez cette start-up Bonne Nuit ?
Bien oui, quand on est dans la literie, obligatoirement, on connaît un petit peu toutes les start-up, on connaît tous les industriels, voilà.
Mais alors,
on n'a pas de relation commerciale actuellement avec
eux. Alors, vous lisez, vous êtes dans la literie depuis très longtemps, vous êtes donc le président fondateur de cette marque que les Français connaissent bien, de cette enseigne que les Français connaissent bien, Maison de la Literie. Vous l'avez fondée il y a un peu plus de 40 ans. On va se projeter d'ailleurs au tout début des années 80. Il y a une photo qui va être diffusée. On vous voit sur votre devant le tout premier magasin. On va la voir en plein écran. C'est dans quelle région ?
C'est dans le 78, Orgeval, en région parisienne, autour de l'Ouest, c'est très facile. Premier magasin en 1980, voilà, la suite et la grande aventure commence à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à cette grande aventure ? Je crois que vous avez, il y avait eu déjà la création de magasins de meubles Discount, oui, voilà. William, dans
moi,
les années.
Je suis à l'origine dans l'ameublement traditionnel et j'ai constaté en magasin, puisque je vendais, j'étais au contact des clients, qu'on ne s'occupait pas assez de la literie et qu'on ne proposait pas de produits de qualité. Et la literie, c'est important, vous le savez comme moi, on a besoin de bien dormir et de se reposer. Aujourd'hui, on en a pris conscience. Et donc, je me suis dit, il faut s'en occuper. Comme personne n'a voulu le faire, j'ai dit, on va créer des magasins spécialisés en offrant des collections élaborées, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir.
Parce qu'à l'époque, on achetait de la literie dans les magasins de meubles, il n'y avait pas de magasins spécialisés, voilà, tels que vous les avez amenés en France.
Il n'y avait pas de spécialistes.
Alors, votre développement, il s'est fait à coup de rachat, à coup d'expansion, à coup de franchise aussi. Ah. Vous avez mis la franchise au cœur de votre développement.
Au tout départ, on crée les magasins pilotes pour, constater que le concept et le système fonctionnent. Et ensuite, on le développe en franchise. Ça a été le démarrage qui a été assez fulgurant et très fort. Et après, bien entendu, au cours de l'expérience qu'on peut acquérir, eh bien, on fait des acquisitions et on essaie de développer. Et puis, on essaie surtout de conserver la place de leader qu'on a occupée depuis la création et que l'on a encore aujourd'hui, ce qui est important.
Alors, à l'heure actuelle, on va voir aussi donc une infographie. Vous avez quatre enseignes. Si on fait simple, il y a l'enseigne Maison de la Literie, il y a l'enseigne Univers du Sommeil, et puis deux rachats en 2021, Place de la Literie et Tout Salon. Est-ce que tout est cohérent ? On comprend pour les trois premiers. Pourquoi revenir aux meubles, donc de se rediversifier vers le meuble avec Tout Salon ?
C'est, la volonté d'accélérer un petit peu le développement. Et le siège est très proche de la literie. Il y a une relation. Dans nos magasins de literie, on a toujours vendu un petit peu de canapé, un petit peu de canapé lit, des convertibles. Donc c'était l'opportunité de d'ouvrir un petit peu et en plus de pouvoir amener à notre réseau de franchisés des développements possibles sans sortir, si vous voulez, de leur région. Quand on occupe la région, j'allais dire, du Loiret, eh bien on fait un Maison de la Literie, on fait un Univers du Sommeil. Si on veut se développer un peu plus, on fait un Tout Salon. Donc c'est de conserver un petit peu cette opportunité de développement à offrir à nos franchisés.
Alors si on est sur BFM Business, on aime bien les chiffres évidemment, oui. L'état de vos magasins, quelles que soient les différentes enseignes, je crois que rien qu'en France, plus de 400 magasins sont sous votre responsabilité.
Oui, tout à fait, Maison de la Literie c'est 300 points de vente actuellement, Univers du Sommeil, vous en avez 80, Place de la Literie c'est 25, on espère qu'on va pouvoir développer, et Tout Salon, lorsqu'on a acheté, disposé de 43 magasins, on est ramené actuellement à 60 ouverts et avec une réserve d'ouverture sur l'année qui arrive.
Et une forte progression, voilà, pour Univers du Sommeil. Hein. Je crois que
c'est
votre objectif.
Logique. Maison de la Literie, on commence à être bien implanté. Il nous reste encore un peu de place, mais bon, on va pousser un peu les machines sur les enseignes qui suivent.
On va continuer sur les chiffres clés. Le chiffre d'affaires 2021 de votre groupe.
2021 en totalité, consolidé, ça fait 400 millions.
400 millions, c'est un chiffre qui est quoi ? Stable, en progression ?
Légèrement en progression. Puisque malgré les années Covid, l'année 2020 et 2021 se sont bien terminées.
Mais pendant le Covid, on avait besoin de bons lits, hein, parce qu'on est beaucoup plus resté à la maison.
Je pense que c'est un élément qui est fondamental et que le consommateur a pris conscience l'essence de l'état de sa literie. Et une literie, ça se renouvelle aujourd'hui. On ne peut pas conserver une literie plus de 8-10 ans. Ce n'est pas raisonnable si on veut se maintenir en forme, soigner son physique.
Je reviens d'un mot sur les différentes enseignes. Quel est votre positionnement? Quelles sont les cibles? Est-ce que vous êtes dans le moyen de gamme, haut de gamme, bas de gamme? C'est quoi votre
cible? On est dans le moyen haut. Moyen haut de gamme, puisque si on prend Maison de la Literie, on a actuellement les magasins Maison de la Literie traditionnels, classiques, répartis sur toutes les zones d'activité commerciale en France, et on a créé une dizaine d'années les magasins Maison de la Literie Prestige, qui sont dans le centre-ville de Paris, sur Monaco, sur Cannes, sur Saint-Tropez, enfin toutes les zones où les pouvoirs d'achat sont plus élevés, et on vend du luxe, et c'est c'est notre, un peu notre ADN, c'est la montée en gamme en permanence, et je pense que c'est un petit peu aussi ce que ressentent les consommateurs et c'est leurs besoins.
Et puis une de vos particularités, celle de votre groupe, c'est depuis 2012, donc depuis 10 ans, vous n'êtes plus seulement un distributeur, vous êtes aussi un fabricant.
Les fabricants
pourquoi vous êtes-vous lancé dans la fabrication? C'est souvent un peu plus complexe aussi à gérer que la simple distribution. Pourquoi cette alliance?
En quelques mots, il y avait des marques, il y a des marques nationales en France qui sont connues, que vous connaissez certainement. Et lorsqu'on constate qu'on a un gros développement comme l'on a eu et qu'on est obligé de vendre ce que vendent tous les concurrents, et on avait un gros problème de similitude de produits en apparence avec la grande distribution et nous les spécialistes, ce qui nous a poussé pour être plus transparent auprès de notre clientèle, de constituer, de créer nos collections. Pour ce faire, on s'est allié à un industriel, c'est plus facile, chacun son métier, et on a pu réussir notre opération qui fonctionne merveilleusement. Aujourd'hui, il y a 80% de nos produits sont fabriqués chez nous, sont des collections exclusives pour nos magasins, et le complément est fait en Europe.
C'est en Europe, ouais.
Pour compléter un petit peu. Le but étant d'arriver à 100%, bien entendu, de fourniture
de Made in France.
Absolument.
Et les usines donc, sont en Saône-et-Loire et en Charente. Elles représentent combien de salariés?
Ça représente un peu plus de 140 personnes entre les deux.
Et au final, vos effectifs, quand on ajoute ces salariés-là, les effectifs dans vos magasins en propre et ceux en franchise?
On est autour de 2200 personnes.
Le groupe Maison de la Literie, c'est aussi l'international depuis, je crois, 2005, depuis la Suisse. Ça fait donc plus de 15 ans que vous essayez d'aller au-delà de nos frontières. Quels sont les pays où vous êtes présent à l'heure actuelle?
Alors, l'international, on l'a traité par les opportunités qui se présentent. Alors, on a eu, bien entendu, la Suisse, on a la Tunisie, on a l'Afrique avec Abidjan, Côte d'Ivoire, on a commencé. Nous avons la Chine, avec laquelle on a signé un très beau contrat. Ouverture de 300 points de vente, s'est engagé à faire le numéro 1 chinois de la literie, parce qu'ils sont aussi très 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 friands du Made in France. Donc on a ouvert 5 premiers magasins pendant ces périodes de confinement. La suite, ça va se déboucler maintenant, mais avec un autre avantage, c'est qu'ils achètent chez nous. Nous fournissons également les produits. On vend que du produit français en Chine.
Il nous reste, Pierre Elmalek, juste une minute. Comment vous vivez la concurrence de toutes ces marques dont on voit beaucoup de publicité? On pense évidemment aux Teddy Bear, Emma, Simba, qui font souvent des matelas enroulés, les fameux bed in box. Est-ce que vous allez aller vers ce modèle-là et comment vous vivez cette nouvelle concurrence?
On a créé le produit pour l'avoir parce que quelquefois vous pouvez avoir la demande par certains de nos clients, mais on est sur un produit qui correspond plus à du premier équipement, c'est-à-dire les grandes chaînes
donc moins cher, et c'est pas votre
pas
positionnement.
On est sur un créneau moyenne entrée de gamme autour de 600 à 700 euros. Nous, on est bien au-dessus.
Très rapidement, pourquoi vous êtes-vous mis à la vente en ligne un peu tardivement, j'ai envie de dire en 2019 et pas plus tôt?
Toujours pour ce sujet, parce qu'il faut créer des collections adaptées, et donc on les a, notre site fonctionne très correctement, et aujourd'hui on essaie de tirer le consommateur plus vers les produits un petit peu Maison de la Literie.
On avait plein de choses à voir ensemble, mais je crois qu'on en a déjà vu un certain nombre. Merci beaucoup, Pierre Elmalek, d'avoir célébré, puisque ça fait un peu plus de 40 ans, les 40 ans de cette grande marque que vous connaissez tous, Maison de la Literie. Merci d'avoir
été à vous.
Notre invité. Et on va terminer cette émission avec une autre entreprise à succès, créée il y a 5 ans, dans un marché très porteur, et de plus en plus d'ailleurs, celui du reconditionnement des téléphones portables. Ça s'appelle PRS, Phone Recycle Solutions. Le siège de l'entreprise est à Paris. C'est un reportage signé Rebecca Blanc-Lelouch.
Aujourd'hui dans Impact, on va parler reconditionnement avec le leader européen du secteur. Ça s'appelle Phone Recycle Solutions et on est aujourd'hui dans ses locaux dans le 18e arrondissement de Paris avec son cofondateur Nessim Hadouk. Bonjour Nessim, comment ça fonctionne PRS?
PRS, c'est une boîte qui a été créée il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on reconditionne entre 4-5 000 téléphones par jour. Donc, on les teste, on fait 53 points de contrôle, on les reconditionne, on les nettoie, on les met en boîte et après, on les vend à des opérateurs. Et on ne change qu'une seule pièce chez PRS, que la batterie. On a zéro déchet, à part la batterie, bien sûr.
Comment vous avez eu l'idée de PRS? Comment vous vous êtes dit, je vais reconditionner des téléphones et je vais me faire une marge dessus?
Je fais du téléphone depuis 30 ans et en fait avec l'arrivée de Free qui a cassé les prix chez les opérateurs, les gens n'avaient plus de subventions dans les téléphones parce que les opérateurs avant, vous achetez un téléphone qui vaut 700-800 euros, vous prenez un forfait à 39-49 euros, vous avez le téléphone qui allait avec. Et en fait avec l'arrivée de Free avec l'abonnement de 2 euros, les clients ont commencé à racheter du téléphone mais n'allaient pas acheter des téléphones à 500-600 euros, donc ils avaient besoin d'avoir des téléphones à 200-300-400 euros, et là on a commencé à faire de l'occasion et du reconditionné. Aujourd'hui PRS c'est 2 200 000 téléphones vendus, c'est 73 000 tonnes de carbone économisées.
Pour fabriquer un smartphone neuf, il faut 283 kg de matières premières contre 24 kg pour en reconditionner un chez Fun Recycle Solutions. L'entreprise a réalisé 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.
Et les reportages Impact, c'est tous les jours du lundi au jeudi dans Good Morning Business sur BFM Business, bien sûr, à 7h40 avec Cyrielle Ariel et Rebecca Blanc-Lelouch. On se retrouve, nous, le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de La France à tout pour réussir. Et après les 40 ans de Maison de la Lettrée, bien, on célébrera les 50 ans des piscines Water Air, autre grande marque que les Français connaissent bien. Rendez-vous donc le week-end prochain. D'ici là, bien sûr, très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.